Ou le psaume 32 qui dit: Heureux celui ou celle dont les transgressions est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si les grandes eaux débordaient, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Le texte nous exprime la manière d'être heureux. J'appelle ça l'heureux aptitude. Ben oui, c'est une manière de vivre. Vous savez, je pense qu'au temps qu'enfant de Dieu, certes, la vie n'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi? La vie n'est pas facile. Mais il y a pire qu'un chrétien triste. C'est un triste chrétien. Non? Si la joie qui est dans mon cœur, je l'exprime, je suis certain que même ceux qui autour de moi changent. Mais si dans mon cœur je suis habité par la tristesse, par la confusion, certes tout ce qui est autour de moi le ressent et à quelque part je ne suis plus cette lumière dont le Seigneur m'invite à être. Soyez la lumière du monde, n'est-ce pas? Et le texte dit comment être heureux. C'est pas en ayant gagné le ticket du loto, c'est pas en ayant trouver peut-être de l'argent sur la route. Non, il dit heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Je pense que vous avez sur votre Bible aussi, à chaque fois, il y a un petit mot, pause. Non? C'est presque à dire, voilà, je m'arrête, je vais réfléchir déjà sur ce que je viens de lire. Et toujours le psalmiste, si on prend un peu plus loin, au psaume 38, il va encore décrire ce qui est le contraire d'être heureux. Qu'est-ce qui est le contraire d'être heureux? Malheureux. Ok. Et pourquoi on est malheureux? Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui nous permet pas d'être heureux? Regardez le texte. Il dit, Éternel, ne me punis pas dans ton indignation et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. Il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ton courroux, point de paix dans mes os à cause de mon péché. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, accablé, à l'extrême. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car mes reins sont pleins d'une brûlure et il n'y a rien d'intact dans ma chair. Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Waouh! Ça, c'est être malheureux. Et tant qu'on vit dans cet état de péché, puisque le psalmiste, il le dit, il le reconnaît, c'est à cause de ma folie, c'est à cause de mon péché. Que se passe-t-il quand le péché habite le cœur de quelqu'un? En effet, il porte un fardeau qui est souvent trop lourd. Je lisais une méditation, je ne sais pas combien d'entre vous ont pu la lire, il y a bien des années de ça, hein, sur « Sa parole pour aujourd'hui ». Vous connaissez? C'est un petit livret que vous pouvez recevoir gratuitement. Si vous voulez, je vous donnerai les informations. Vous pouvez le demander. Vous pouvez aussi le recevoir sur votre téléphone portable. D'accord? Et il y avait un jour une méditation qui m'a beaucoup interpellé et qui parlait d'une vieille méthode pour régler les problèmes. Quand quelqu'un, en effet, avait tué une personne, on prenait la personne qui était morte et on l'attachait sur le corps du vivant qui l'avait tué. Et on l'obligeait à le porter. Alors, première réaction, que ferais-je si je rencontrais quelqu'un, excusez-moi, qui porte un mort sur les épaules? Est-ce que je le croise? Ou est-ce que je l'évite? Et si je devais le croiser, est-ce que je vais m'arrêter, discuter avec lui? Ou est-ce que je vais essayer tout simplement de lui faire un geste de la main et dire, écoute, on se verra un autre moment, quand ce sera un peu plus... mieux pour toi. Et que se passe-t-il dans une situation pareille? Est-ce que nous sommes faits pour porter quelqu'un comme ça sur notre corps? Ou est-ce que ce qui se produit dans le corps de cette personne, est-ce qu'elle ne se transmet pas aussi sur nous, puisque le corps se décompose? Quelle manière de faire mourir quelqu'un en lui faisant porter le poids de sa faute? Et en lisant ce texte, je me rends compte que parfois on néglige ou on ne considère pas suffisamment ou de la manière assez juste nos fautes. Enfant, qui n'a pas fait de bêtises? Ça, comme enfant, hein, adulte, on n'en fait plus. Donc j'encourage les enfants à grandir. Mais quand on a fait une bêtise, est-ce qu'on est fier de notre bêtise? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On dit rien, surtout à maman et papa, dans l'espérance qu'ils n'arrivent pas à le lire. Mais moi, c'était comme si j'avais un bandeau là avec l'écriteau et mes parents voyaient tout de suite si j'avais fait une bêtise. Comment peut-on penser que Dieu ne voit pas clair dans notre vie? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Adam et Ève, n'est-ce pas? On pourrait se dire que ce n'était pas trop grave. Ils avaient entendu la pub manger 5 fruits et légumes par jour. Un fruit. Et pourtant, ils avaient désobéi. Et à cause de cette désobéissance, à quelque part, ils étaient dans une condition qui ne leur permettait plus de se présenter devant Dieu librement. Ils se cachaient. En réalité, il y avait des choses que jusque-là n'avaient pas de poids, n'avaient pas de conséquences de leur vie, mais que d'un coup, leurs yeux se sont ouverts et waouh, ils ont dû reconnaître qu'ils n'étaient pas en bon état. Et ce qui m'a toujours interpellé, c'est le fait que Dieu dise « Où es-tu ? » Est-ce que Dieu sait où on est ? Pourquoi leur Dieu dit « Où es-tu ? » C'est pas le corps. Où est ton esprit ? Où est ton âme? Pourquoi il n'y a plus ce lien qui fait que j'ai hâte de te voir, que toi surtout tu as hâte de me voir? Moi je pense qu'à ce moment-là, Adam, il aurait aimé que Dieu oublie le rendez-vous du soir. Il dit la parole de Dieu que le soir, Dieu venait les voir. Quel moment privilégié, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Dieu continue à venir nous voir le soir? Oui, mais il est important pour nous le soir d'être en ordre comme on devrait être tout instant, parce que le Seigneur nous voit à chaque instant, n'est-ce pas? Et là, le psalmiste, il reconnaît que malheureusement, le péché est là, mais à un certain moment, Dieu soit béni parce que dans son amour et dans sa bonté, Dieu nous donne un moyen de sortir d'un engrenage qui pourrait nous peser tellement lourd qu'à la fin, il nous écrase. Et il dit au texte, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché pose. Waouh! Seigneur, quelle grâce! Et en réalité, frères et sœurs, si nous accomplissons cet acte personnel, c'est triste quand quelqu'un doit confesser notre péché, non? Comment on appelle ça? Si quelqu'un parle à notre place, comment on appelle ça? Imaginez que quelqu'un, non, 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 c'est pas un avocat. Imaginez que quelqu'un sait ce que vous avez fait et va le raconter. Oui, mais nous, on n'avait pas le courage de le dire. Et la personne à côté peut dire, mais vous savez, ça n'a pas de valeur. Dieu ne veut pas l'entendre de quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire, si on sait une chose pareille, on devrait apprendre, excusez-moi, à nous taire. Peut-être que le mieux qu'on pourrait faire, c'est de prier pour que Dieu conduise cet homme, cette femme, à faire cet acte de confesser à Dieu. Et là, on gagne une âme, Seigneur. On agit comme un frère, comme une sœur, non pas comme un juge, pas non plus comme un avocat, parce que je crois qu'il y en a un déjà, et il occupe bien sa place, c'est Christ, n'est-ce pas? Accusateur, il y en a un, c'est pas notre place, amen. Et juge, il y en a un, c'est pas notre place. Quelle est alors notre place? La prière. Le texte dit, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Cette image où Dieu coupe ces liens qui pesaient sur nos épaules. Vous savez, comme si on avait un gros sac qui nous écrase et que quelqu'un y vient, il le prend, hop, boum. Vous avez déjà vu, les enfants, ils vont reprendre l'école la semaine prochaine, parfois leur sac à dos, combien il est lourd, non? Et alors, un papa et maman, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il voit cet enfant, le pauvre, s'écrouler sous le poids de la science et de la conscience. Et il prend le fardeau et voilà, il le porte. C'est une autre stature, non? C'est pour ça que quand on est plus grand dans la foi, on doit apprendre à utiliser de cette stature spirituelle pour aider à porter le poids. Non pas pour se poser dessus et dire « Attends, je vais t'ajouter 2-3 kilos de cailloux, ça va t'aider, ça va te muscler. » Non. Et le texte dit « et moi », mais après il dit « et lui, il a enlevé la faute. » Il est le soutien aussi dans le fait de prendre nos conséquences, parce que vous savez, nos erreurs ont souvent des conséquences et Dieu nous demande de les de réparer, non? D'assumer nos conséquences. Mais ce qui a attiré mon attention, puisqu'on est dans un temps de prière, c'est au verset 6, il dit « qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable ». Et qu'est-ce qui se passe? « Si des grandes eaux débordent, elles ne l'attendront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures des cris de délivrance. » Pause. Amen. Si je veux être assuré, frères et sœurs, de pouvoir traverser même les eaux qui débordent, j'ai besoin au préalable que ma vie, que ma relation, que mon cœur soit en paix avec Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on se cache. C'est dommageable de vouloir se cacher du regard de Dieu. C'est convenable de venir au Seigneur et de confesser nos péchés. Alors vous savez, si on essaie de prier avant de régler nos comptes, nos prières n'arrivent même pas au plafond. Et on le sait, non? Comment prier Dieu si on est dans une situation de désordre? Comment aller demander à notre Père, « Seigneur, j'ai besoin de ceci » quand on sait qu'à quelque part, on a d'abord d'autres choses à régler? Est-ce que Dieu nous regarde méchamment? Non. Connaissez-vous cette histoire du père qui attend son fils prodigue? Elle est magnifique. Moi, j'arrête pas de penser à ce texte. Après, chacun a ses raisons. Mais je me dis, Seigneur, quel amour. Moi, je sais que le jour où je suis revenu au Seigneur, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était prêt à me fouetter. Pas quelqu'un qui était prêt à mettre des coups de bâton sur la tête en me disant « je te l'avais dit, non ?» Et maintenant, prends un coup de bâton. Oui, Seigneur, vas-y, donne un coup de bâton. Non. J'ai trouvé des bras ouverts. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a redonné de la dignité, qui m'a redonné des habits, alors que ma vie m'avait complètement dilapidé. Il m'a redonné une bague, non pas celle du mariage, ça c'est celle de ma femme. Mais il m'a redonné cette position de fils, alors que l'ennemi et le péché me l'avaient enlevé. Est-ce qu'on est toujours dans cette position d'enfant de Dieu? Oui. Eh bien alors, rien ne devrait jamais nous empêcher de revenir au Seigneur. Parce qu'il nous regarde comme un père. Et les bras ouverts d'un père. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Non? C'est magnifique. Et il dit le texte, c'est la promesse de ce Père merveilleux, verset 8. Alors c'est, j'ai mis dans mes notes, le meilleur c'est pour la fin. Le meilleur c'est pour la fin. Puisqu'il dit, je t'instruirai. Est-ce qu'on a besoin d'instruction? C'est ça le résultat de la prière, n'est-ce pas? C'est pas seulement, Seigneur, tu me secours dans les problèmes et après je fais ce que je veux. Non, Seigneur, quelle est la direction à prendre? Je te conseillerai. Qui a besoin de conseil ce soir? Allez au Seigneur. C'est pas à moi. Moi-même, j'y vais. Amen. Et j'en ai besoin. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Sans intelligence, il nous le dit. On le bride avec un frein et un mort. Vous avez vu déjà, c'est pour bloquer la bouche, hein, pas dire de bêtises. Dont on le part afin qu'il ne s'approche pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Par la prière, on peut avoir l'instruction. On peut aussi avoir du conseil. On peut avoir la direction. Mais on a aussi certainement un regard protecteur et bienveillant de la part de Dieu. Est-ce qu'il est le temps convenable ce soir? Est-ce qu'on est dans le temps convenable? Oui? Est-ce qu'il est convenable que pour vous ou aussi pour la personne qui est à côté de vous? Oh! Pour tous? Ok. Donc ce soir, je vais un tout petit peu vous bousculer. C'est facile de prier pour nous, Seigneur, donne, 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 donne. On va faire autrement ce soir. Je vais vous inviter à vous lever et peut-être prier les uns pour les autres ce soir en disant, Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur ce qu'il a besoin. On n'a pas besoin de connaître, excusez-moi, les secrets les uns des autres, non? Mais si le Seigneur, il est capable de ce regard bienveillant, est-ce qu'on peut avoir nous aussi un regard bienveillant vers notre frère, notre sœur? Est-ce qu'on peut encourager notre frère par la prière? Est-ce qu'on peut se lever et peut-être se déplacer si vous avez personne à côté? J'aimerais que tout le monde ait quelqu'un qui prie avec lui. Peut-être une sœur avec une sœur, un frère avec un frère. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on puisse au moins être, voire deux, voire trois personnes, comme vous voulez, mais qu'on puisse prendre un temps de prière les uns pour les autres. Et je crois qu'il est le temps convenable pour dire au Seigneur, Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur, il a besoin de conseil, il a besoin d'aide. Moi aussi, Seigneur, on a besoin de ton instruction, on a besoin de ta sagesse, on a besoin aussi, Seigneur, que tu nous aides à être les uns auprès des autres, puisque nous sommes une armée, ben, elle se bat ensemble. Et on va se battre ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres, mais jamais les uns contre les autres. Amen. Je vous invite à vous lever, à vous approcher d'un frère, d'une sœur ou quelqu'un qui est à côté de vous, mais que personne reste seul.